artiste
J'étais en prépa
groupe.
HEC, et donc tout d'un coup, un jour, j'apprends qu'il passait à l'école centrale. C'était en 1969, je crois. J'étais voir les Zeppelin et quelque chose s'est totalement arrêté dans ma vie. C'est-à-dire qu'en fait, entre la création artistique, puisqu'on va parler de Manet, et l'adolescence, dont vous parliez tout à l'heure avec nos amis, je pense que l'adolescence, comme la création artistique, c'est une espèce d'apocalypse d'émotions. Et donc, j'ai pris cet apocalypse dans la tête. J'étais très perturbé par tout ça.
Et par l'art aussi? Parce que ce n'est pas une autobiographie, hein, contrairement à ce qu'on peut croire en ce début d'émission. D'entretien, Guillaume, c'est que vous avez fait un livre hybride. Vous avez écrit « Déjeunons sur l'herbe », un récit passionnant qui mêle votre passion de l'art, quelques confidences sur votre vie agitée de journaliste, bien connue des Français. On verra avec nos libraires si ça leur a plu, j'espère que oui. Tout tourne autour de Manet, en tout cas, et de son « Déjeuner sur l'herbe », le plus fascinant tableau du monde, selon vous, Guillaume. Un de mes premiers souvenirs artistiques d'adolescence avec les Beatles et Led Zeppelin. Il y a un côté Led Zepp chez Manet, un côté transgressif.
Alors Manet était un fils de famille, c'est un grand bourgeois de gauche dans une famille de républicains. Si vous allez au musée d'Orsay, vous verrez les plus beaux tableaux de Manet, c'est-à-dire ses parents, le Fifre qui était absolument sublime comme ça, rouge et noir, l'évasion de Rochefort avec les communards qui ressemblent d'une certaine manière à le all-over des peintres américains des années 50. Il ne dessinait pas, il foutait en l'air la perspective. Il y avait la peinture dans ma famille, parce que mes parents étaient marchands de tableaux. Eh oui. César était dans la galerie de mon père. Armand, je voyais David Hockney, Francis Bacon à la palette, etc. Et mes copains de lycée, avec qui je partageais Led Zeppelin et Diane, pour Diabolomante, ça n'existait pas. Et c'est là que je me suis dit qu'il fallait que je parle de Manet, parce que Manet est le génie absolu.
Mais vous dites que c'est de la faute de l'éducation nationale, ça.
L'éducation nationale,
parce qu'on ne nous apprend pas assez l'histoire de l'art.
C'est une catastrophe, si vous voulez. Vous pouvez passer des grands concours. J'en ai passé, vous aurez des questions sur Proust, vous aurez même des questions sur Céline, vous aurez des questions sur Baudelaire, le peintre de la vie moderne, grand ami donc.
Ami de Manet.
Manet avec Zola. Jamais on vous parlera de Manet. Or Manet avec Pasteur, c'est le français qui a le plus changé de choses dans le monde. C'est pour ça que la deuxième partie du livre sont des entretiens avec des gens que je connais bien, comme Jeff Koons, Robert Longo, des Américains, George Condo à New York.
Mais qui ont tous un lien avec Manet. Alors vous démarrez par le début, Guillaume Durand. Vous racontez l'histoire de Manet qui est associée au scandale de son époque. En 1863, les deux tiers des 5000 œuvres présentées au salon de l'Académie des Beaux-Arts sont refusées, au prétexte de leur non-conformité avec l'art considéré comme officiel. Ça va si loin que l'empereur Napoléon III intervient pour instaurer un salon des refusés. Manet y présente alors le déjeuner sur l'herbe et ça fait scandale quand même. Tout le monde les trille, sauf Zola qui le défend. Qu'est-ce que c'est le problème avec ce tableau? Parce que ce ne sont pas les femmes nues, hein, il y en a plein à l'Académie des Beaux-Arts.
Ce
qui dérange, c'est quoi? C'est l'attitude, c'est l'intention.
Mais si vous voulez, Godard a dit que Manet avait inventé le cinéma. Il y a un côté Hitchcock. Voilà de quoi il s'agit. C'est très simple à la radio de parler de peinture. Voilà un déjeuner, personne ne déjeune. Voilà de l'herbe, mais il n'y a pas de perspective. Voilà des personnages qui sont dans une situation extrêmement érotique, provocante, parce que quand il est revenu avec son copain Augustin Proust d'une baignade à Argenteuil, il était tellement furax contre les gens des salons qui refusaient ses œuvres, ce qui était fondamental pour les artistes, qu'il dit, ils veulent un nu, ils vont avoir un nu. Ouais. Et donc il a installé son frère, son beau-frère,
qui sont
la femme de Zola, Alexandrine, qu'on voit en haut, plus sa maîtresse de l'époque.
Alors, la femme de Zola, elle sort du bain, d'un étang, on imagine.
Elle est à moitié dévêtue. Ouais, mais c'est
et au premier plan,
pour signifier une espèce de perspective qui n'est pas vraiment une perspective.
Mais il casse la perspective. Hein, il n'est pas du tout dans les règles de la perspective.
Vous avez des fruits en bas à gauche. Et on est dans cette situation.
Et une femme nue au premier plan, surtout.
Voilà, une femme nue au premier plan qui regarde le spectateur, donc torsé. Personne ne se parle, elle est nue. Complètement nue, les hommes sont habillés. Et cette femme vous regarde, elle dit « Moi je suis de 1863, les tensions sexuelles qui existent sous le Second Empire sont extrêmement violentes, voilà un sujet qui est un sujet extrêmement actuel. La Révolution française n'a pas fait de bien du tout au statut de la femme, parce que vous savez que dans un autre déjeuner qui s'appelle le déjeuner de l'atelier, on voit le fils de Manet, qui n'est peut-être, c'est pour ça que tout est fascinant chez cet homme, qui n'est peut-être pas son fils, mais le fils de son père, qui lui est mort de la syphilis, comme Manet qui est mort de la syphilis. Ouais. Il a épousé la pianiste de la famille après la mort de son père. La pianiste était peut-être la maîtresse de son père.
C'est une pagaille monstrueuse, Guillaume.
Comment?
On va pas rentrer dans la famille Manet parce que c'est
une pagaille. C'est une sorte d'apocalypse. C'est une sorte d'apocalypse. Il y a dans des
On n'y comprend rien.
Dans les ateliers,
même les historiens sont pas d'accord. Oui. Il aurait une relation, et on dit que finalement non. Enfin, on est perdu dans l'histoire
de Manet.
Alors
le code Napoléon, vous savez ce qui s'est passé? Oui. Le code Napoléon, c'est pour ça que je dis le côté négatif de la Révolution. Ils ont interdit qu'on fasse la recherche du père. Donc Manet a pris cet enfant qu'il a gardé et qu'il n'a jamais vraiment reconnu.
Il a pas pris le nom de Manet, d'ailleurs.
Qui n'a jamais eu le nom de Manet. Il s'appelle donc Léon Collard.
Donc c'est le père qui aurait couvert ça. Vous écrivez, Guillaume Durand, vous écrivez, tout ce que Manet a peint, le sexe, la mort, la famille, ne rétablit pas la dignité humaine, mais sublime la dislocation mentale de l'époque. Ouais. Et c'est exactement ça.
Il y a un côté voyeur chez Manet, il y a un côté, par exemple, si vous imaginez le balcon, vous avez donc Berthe Morisot qui est là. Vous avez en arrière-fond le fils, toujours mystérieux, qu'on voit à peine. Vous avez un ami de Manet, il y a une autre femme qui est ici. Tout est un mystère et elle regarde Manet qui est en train de la peindre. Elle le regarde avec un regard d'effroi, de violence.
Mmh. Alors c'est ça qui fait
elle
scandale aussi.
Amour.
C'est ça qui fait, parce que le balcon, pour le coup, c'est un tableau qui est sublime mais qui est très sage a priori. Sauf que rien ne va là non plus. La critique dérange.
Il n'y a que vous qui croyez.
Ah bah il y a que moi. Enfin aujourd'hui au XXIe siècle.
Il y a un critique, il y a un débile de l'époque qui a dit à propos du balcon, fermez les volets. Fermez les volets.
Rien ne va. Le vert est trop vert. Le noir est trop noir. Le cadrage est mauvais. Rien ne va dans
ce. Mais c'est un cadrage qui est très très proche du cinéma. Enfin fenêtre sur cour d'Hitchcock. C'est une histoire. Je parle en présence de Diane, d'intérieur et d'extérieur. En fait, ce sont des gens qui, dans une société bourgeoise qui ne pense plus qu'à l'argent, après la chute de l'Empire, ils essayent d'éprouver, comme nous à l'adolescence, une liberté folle. Et ils se heurtent à tout sur tous les murs, et donc ils créent, ils peignent, ils font la guerre. Manet s'est engagé, ce sont des types extrêmement courageux, et à 51 ans, on l'ampute dans son appartement de la rue de Saint-Pétersbourg, à quelques centaines de mètres de son atelier. On l'ampute sans aucun moyen de l'anesthésier.
À cause de la syphilis.
À cause de la syphilis.
Allez, les libraires, avec le Canada et la Suisse. On commence par le Canada, Josiane Étourneau.
Moi, je passe tout de suite après la syphilis, en fait.
Oui. Désolée.
Pour reprendre des termes courants de l'art, ce que vous faites dans ce livre, Guillaume Durand, ce n'est pas un simple portrait, c'est un panorama. C'est un livre passionnant, foisonnant, digressif. Je conseille à quiconque s'y attellera tout de même de lui accorder le temps qu'il mérite parce que chaque chapitre est un coffre au trésor, non seulement pour les passionnés d'art, mais pour celles et ceux qui aiment converser avec un livre parce que c'est ce que j'ai fait avec le vôtre tout du long. J'ai discuté avec lui et c'était une discussion très animée.
Merci beaucoup.
On vous imagine discuter avec le livre. La Suisse avec Annick Vermeaux.
Je pense que vous vous êtes fait vraiment plaisir avec ce somptueux ouvrage qui revient sur Manet. Alors, c'est vrai que c'est un livre qui est hybride parce qu'à la base, ça ressemble vraiment à un livre d'art avec le poids, le papier glacé qui est absolument superbe et somptueux quand on le prend en main. Et puis, on a après ce texte qui est quand même très éloigné des ouvrages traditionnels liés à l'histoire de l'art.
Je le crains.
Alors, moi, j'ai été un petit peu déçue du fil conducteur un peu éclaté. J'aurais aimé un tout petit peu que ça soit un peu plus linéaire. Mais cette manière de procéder, ça permet au lecteur, à mon avis, qui est peu féru d'art, de rencontrer, de découvrir des artistes, des œuvres et de se perdre un petit peu avec elles.
Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'on se perd avec plaisir dans votre livre, Guillaume Durand, parce qu'il y a beaucoup de choses, ça foisonne. Vous dites des choses assez intelligentes, j'allais dire, mais en même temps, venant de vous, c'est normal.
De la télévision, on peut tout entendre.
Mais vous dites que beaucoup de ces tableaux sont comme des plans de cinéma.
Ouais.
C'est une préfiguration d'Hitchcock pour le balcon, on en parlait à l'instant, avec fenêtre sur cour sans meurtre. Et c'est vrai, vous reproduisez par exemple la photo d'une scène finale du Guépard avec Alain Delon, et ça ressemble à un tableau de Manet.
Manet, c'est l'artiste absolu. D'ailleurs, pour tous ces gens, y compris pour Picasso qui dira en voyant le déjeuner sur l'herbe, c'est du travail pour plus tard. Ils sont incapables, parce que c'est pas simplement une révolte et une apocalypse de sentiments, de reproduire dans un atelier la virtuosité absolue de quelqu'un qui envoie paître toutes les conventions de la peinture, sauf celle qu'il a dans la tête, c'est-à-dire la beauté absolue.
Bon, on va terminer avec Manet, le joyeux tragique. C'est l'un des titres de vos chapitres. Un homme qui portait la joie en lui, mais qui a été confronté aux tragédies de la vie. C'est la vie qui a détruit sa nature joyeuse, on peut dire ça, qui a d'une certaine façon dramatisé sa peinture, conscientisé sa peinture.
Bah, vous savez, à 16 ans, quand vous revenez d'un voyage au Brésil et que vous commencez à regarder que quelque chose ne va pas du tout, on revient à l'adolescence du côté de votre sexe, pas très bien en tout cas, je reprends une métaphore Hitchcock, c'est la mort aux trousses. Ça commence, il le savait. Ouais. Vous vous souvenez de Baudelaire qui disait « Ah, enfin, j'ai la grande vérole !» Maupassant qui poussait des hurlements, Schubert qui est mort à peine 30 ans, c'est une catastrophe absolue qui a contaminé ces gens. Allez à Orsay, vous voyez le tableau du père et de la mère de Manet. Le père était quand même une sorte de ministre de la justice qui traversait les gouvernements et il était syphilitique jusqu'au dernier donné. Vous voyez comme ça, comme un portrait de Franz Sals, le grand bourgeois, tout en noir et en même temps... Tous ces secrets qui sont très proches de la mort et que Manet a transporté tout au long de sa vie jusqu'au moment où il a fallu qu'il peigne, parce qu'il ne pouvait plus bouger, des pots de fleurs.
Bon, on va terminer sur les pots de fleurs. Merci Guillaume Durand. Allez voir l'œuvre de Manet si vous avez la possibilité.